Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Plus que quelques heures et il en sera terminé de la campagne électorale pour le second tour des élections régionales et départementales. Le scrutin aura lieu après-demain et vous pourrez suivre les résultats lors de la soirée électorale que RFI vous proposera à partir de 20h et que j'aurai le plaisir d'animer. Nous sommes donc dans l'entre-deux-tours et comme en période d'examen, adoptons le plan classique du bilan et perspective. Bilan du premier tour avec l'abstention historique, la cartographie politique et perspective avec un deuxième tour riche en enseignements partisans et une mise en bouche de ce que sera la présidentielle de l'année prochaine. Où en est politiquement la France en ce 25 juin 2021 ? C'est la question du débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Bruno Cotresse.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Et vous avez écrit avec Anne Muxel un ouvrage sur l'histoire d'une révolution électorale aux éditions Garnier. Bonsoir Marie Garayazo.
Bonsoir.
Directrice adjointe du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Les auditeurs de RFI vous connaissent bien puisque vos décryptages émaillent, éclairent Dimanche Politique régulièrement. Et puis Valérie Gasse, bonsoir à vous.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Chef du service politique de Radio France Internationale. Alors, commençons par cette formule que l'on répète, scrutin après élection, législative après présidentielle et encore maintenant avec ces élections locales, le premier parti de France est celui de l'abstention, 66,74% dimanche dernier, seulement un tiers des Français donc ont glissé leur bulletin dans l'urne, à tel point que les ténors politiques ont exhorté les électeurs à se mobiliser pour le second tour, certains expliquant comme le président de la République que la fête des pères avait bon dos, d'autres que le déconfinement poussait à aller se promener. En tout cas, tous rejettent la responsabilité sur les Français, mais aucun ne fait son introspection et se demande si ce n'est pas lui qui ne réussit pas à attirer les Français sur sa cause. Du coup, seuls 36% des Français disent vouloir aller voter après-demain, selon un sondage IFOP que vous avez réalisé pour le journal du dimanche, Marie Garayazo.
Oui, tout à fait, et qui annonce donc éventuellement un petit regain de 2 ou 3 points, mais guère plus, et puis il faut rester très prudent hein, sur ces sondages-là qui peuvent évoluer au fur et à mesure, mais on n'attend pas de grands sursauts hein, pour dimanche prochain. On a une abstention, on retrouve un peu le même clivage qu'au premier tour, hein, avec des jeunes qui sont seulement 13% à déclarer vouloir aller voter. Donc voilà, avec des personnes plus âgées davantage impliquées, et puis un clivage social aussi des catégories populaires qui, a priori, vont s'abstenir de façon beaucoup plus forte.
Alors au passage, ils ne veulent pas aller voter, et ils ne veulent pas qu'on les oblige à voter. Hein. C'est aussi un des enseignements de votre étude.
Oui, c'est ça. On se rend compte que, alors les avis sont un petit peu partagés, mais on a quand même une majorité de Français, hein, 59%, qui sont contre le vote obligatoire. Je pense qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte actuel, hein, c'est-à-dire que les Français ont l'impression qu'on leur a obligé beaucoup de choses hein, ces derniers temps et la notion d'obligation est souvent assez fortement rejetée de la part des Français.
Bruno Cotresse, le fait que les Français ne veulent pas être obligés de voter alors qu'en même temps un certain nombre d'entre eux veulent que le vote blanc soit reconnu parce que c'est aussi un mode d'expression hein, d'aller voter blanc, non pas de ne pas voter. Vous en pensez quoi ?
Je pense que le vote obligatoire n'est pas pour le moment la meilleure des idées pour une raison qui me semble assez simple. Le vote obligatoire, ça ne peut fonctionner que s'il y a une sanction, c'est-à-dire une contravention, en fait. Ça a déjà été proposé par un certain nombre de personnes, mais il y a un souci. D'abord, les catégories populaires sont celles qui sont les plus abstentionnistes. Donc ça reviendrait quand même à introduire une idée d'une contravention pour les catégories sociales, d'abord, qui sont les plus socialement fragiles. Et puis, par ailleurs, il me semble que tant que notre vie politique continue régulièrement de donner l'exemple d'hommes ou de femmes politiques qui ne sont pas parfaitement exemplaires dans leur conduite, il me semblerait extrêmement difficile de rendre le vote obligatoire. Imaginons simplement un électeur qui recevrait à son domicile la contravention parce qu'il n'a pas voté et qui, dans le même temps, apprendrait un scandale ou une affaire politique. C'est simplement impossible. Donc, il vaut beaucoup mieux miser d'abord sur des instruments de facilitation du vote, mais aussi sur un travail d'éducation civique tout au long de la vie. Il n'y a pas de raison que l'instruction civique ça s'arrête avec l'enseignement secondaire.
Valérie Gasse, chef du service politique.
Oui, la question du vote obligatoire, c'est un peu la solution quand on n'en a pas vraiment. Parce que ça revient à chaque fois qu'il y a un scrutin avec une abstention très forte, on se dit « Ah, mais si on mettait le vote obligatoire, du coup, ben, tout le monde serait obligé d'aller voter. On n'est pas sur les raisons de fond, comme vous le disiez, sur ce qui fait que les gens n'ont pas envie d'aller voter. Se moquer de ce scrutin parce qu'ils savaient pas du tout, en fait, pourquoi ils votaient, ce que font les conseillers régionaux, à quoi ça va leur servir. Il y avait essentiellement des enjeux nationaux qui ont émergé de la campagne. Donc, repartir sur le vote obligatoire, c'est un peu comme remettre les débats qu'on a eus avant les régionales sur faut-il voter par correspondance, faut-il mettre le vote électronique, des solutions pratiques qui avaient été repoussées d'ailleurs par le gouvernement. Et là, tout à coup, on se dit, peut-être finalement, il faudrait quand même en reparler, mais est-ce qu'on pourra le faire avant la présidentielle? Certainement pas. Il y a comme ça tout un tas d'idées qui réémergent dans le débat à chaque fois qu'on a un scrutin avec de l'abstention et qui montrent, comme vous le disiez un peu, cette incapacité qu'ont les politiques à s'auto-analyser, à faire leur autocritique et à se dire si les gens ne vont pas voter, il y a peut-être une part de responsabilité.
Alors justement, revenons sur ce qui s'est passé dimanche dernier. Une énorme abstention, du jamais vu sous la Ve République, hein, pour confirmer le chiffre. Peut-être Valérie Gasse, parce que la crise sanitaire a empêché les meetings, a empêché le porte-parole électoral, a empêché de mobiliser, de concerner, d'informer tout simplement les Français.
Bon, c'est vrai que le contexte de la crise sanitaire, ça n'a pas aidé la campagne. Déjà, les élections ont été repoussées à cause de cette crise sanitaire. Donc les gens se sont plus ou moins désintéressés. Et puis, la crise, elle est toujours là. Mais en même temps, on est en pleine période de déconfinement. C'est-à-dire qu'au moment où on a demandé aux Français d'aller voter, on leur a aussi dit, vous pouvez aller au restaurant, vous pourrez partir en week-end, il n'y a plus de couvre-feu. Donc les facteurs conjoncturels, ils n'ont certainement pas arrangé les choses. Ils ont accentué cette abstention pour qu'on arrive à cette abstention record dont parlait Madame Garriazzo tout de suite. C'est que voilà, il y a à la fois du fond des raisons qu'on note scrutin après scrutin sur la désaffection des Français vis-à-vis de la chose politique, pas de la chose politique mais des scrutins, et puis ces facteurs conjoncturels. C'est vrai qu'une campagne, elle a été un peu bizarre. Il n'y a pas eu beaucoup de meetings, il y a eu un petit peu de voilà, mais les rassemblements n'ont pas été possibles. C'était une campagne un peu hybride dont on a vu le résultat.
Et je lisais dans un sondage que 5% des Français ne savaient même pas qu'il y avait une élection dimanche dernier. Je crois que c'est dans un sondage de l'IFOP.
Hein, alors c'est possible. C'est vrai qu'on l'a vu avec les problèmes aussi de distribution de la propagande.
Ah oui,
en plus,
qui en effet n'ont pas fonctionné comme le fameux aide-mémoire pour aller voter. Mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Hein. C'est une abstention structurelle et pas uniquement conjoncturelle. Elle s'inscrit dans un cycle abstentionniste très fort. Et vu son niveau, elle interroge vraiment sur le rapport des Français à la politique. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas trop parler de méthode. Enfin, je pense que la méthode, c'est un des aspects. Mais en fait, il faut quand même se questionner sur l'offre politique. Ben
justement, vous avez réalisé un sondage à l'IFOP pour comprendre les raisons pour lesquelles les Français n'étaient pas allés voter. Qu'est-ce qu'il en ressort?
Alors, il en ressort qu'à 40% à peu près, en fait, c'est le premier élément, en fait, d'explication donné par les Français, c'est de dire que ce scrutin, ils ne voient pas l'impact qu'il peut avoir sur leur vie au quotidien, leur vie personnelle. Donc, il y a un décalage avec ce scrutin et l'impact
alors
réel.
Alors que c'est un scrutin local.
Tout à fait. Hein, c'est vrai que...
C'est les lycées, c'est les cantines, c'est les aides sociales.
Ouais.
Enfin, ce qui est vraiment en prise directe avec la vie de tous les jours.
Mais il y a l'impression quand même d'une vanité du vote, qu'aujourd'hui, notre vote n'est plus utile, ne se traduit pas par des actions vraiment concrètes dans notre quotidien. Il y a aussi l'idée qu'il y a un impact sur les régions, que c'est peut-être un échelon, en effet, à la fois très présent, mais qu'on ne connaît pas très bien les prérogatives. Et puis, on a vu cette campagne qui s'est faite sur la sécurité, alors même que ce n'était pas une prérogative des régions. Et puis, enfin, il y a un troisième aspect, ils sont 34% quand même, à dire que c'est aussi un moyen d'envoyer un signal de protestation vis-à-vis des partis politiques. Et finalement, on le voit, cette abstention, on en parle trois fois plus, enfin, beaucoup plus en tout cas, que le vote blanc. Et donc, c'est vrai que si on veut protester aujourd'hui, il vaut mieux s'abstenir que de voter blanc.
Bruno Cotterès, hein, du Centre de Recherche Politique de Sciences Po, la formule démocratie de l'abstention, ça vous paraît juste et durable?
Oui. Oui, bien sûr, parce que nous nous sommes installés structurellement, non seulement dans des abstentions régulièrement de niveau très élevé, mais aussi dans une forme de relatif détachement par rapport au sens civique donné au vote. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, le vote, c'est un rituel. C'est quelque chose où on va pratiquement le dimanche en famille pour rendre, on va dire, ce rituel civique toute sa puissance aujourd'hui. Le vote est toujours considéré par les Français comme le meilleur moyen de l'expression publique, mais à côté d'autres modalités de l'expression publique, en particulier le fait pas seulement de manifester, mais aussi le fait de pétitionner, le fait de boycotter, le fait de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc il y a aujourd'hui une pluralité des modalités de l'expression publique. Et le vote a perdu quand même un petit peu, on va dire, de son prestige, ou en tout cas de son aura, comme le rituel civique qui était la principale modalité de l'expression publique.
Valérie Gass.
C'est certain qu'on est du coup dans une sorte de transformation de notre rapport démocratique à l'acte électoral.
Et puis, je ne sais pas ce qu'en pensera M. Cotres, mais en 2017, déjà, le vote pour Emmanuel Macron à la campagne présidentielle, ça avait été une forme de manière de dire les partis traditionnels, et c'est là-dessus que aussi Emmanuel Macron avait joué pas mal de sa campagne, une autre offre politique, avec une promesse de recomposition, de changement de la pratique politique. Et là, on arrive peut-être au bout de 4 ans à un constat, c'est que ben, il n'y a pas vraiment eu de changement, et qu'il y a peut-être aussi une forme de déception chez certains et de désintérêt qui s'est prolongé parce qu'il y a eu un espoir ou en tout cas une promesse qui n'a pas été tenue et du coup on en revient à une situation qui est un peu comme avant.
Vous parlez d'Emmanuel Macron justement, il y a quelques jours de cela, il s'était amusé avec McFly et Carlito, ou plutôt l'inverse, deux youtubeurs célèbres. 10 millions de personnes ont regardé le show sur les réseaux sociaux. Pour autant, c'est une opération ratée parce que les jeunes, Marie Grazeo, sont parmi les plus abstentionnistes de ce premier tour.
Oui, c'est sûr. Enfin, c'est ce qui a été évoqué par Bruno Cotres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes s'engagent davantage dans d'autres modes d'expression, notamment ce qui a été évoqué, hein, le boycott, les pétitions, les manifestations, avec souvent aussi des démarches quand même de plus en plus individualistes. Hein. Quand on boycotte une marque, c'est une démarche qu'on fait tout seul chez soi. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on l'a mesuré. Hein, cette opération n'a eu aucun effet, hein, ni négatif, ni positif. On voit qu'on a un gouvernement qui a de plus en plus de mal en fait à communiquer, mais aussi parce qu'on est dans une société où les modes de communication sont démultipliés, où on peut pas parler de la même façon à différentes catégories de public, et il y a certainement des tentatives un peu tout azimut, mais qui ne recueillent pas les fruits souhaités.
Pourquoi les Français ne sont pas allés voter? François Bayrou, le président du Modem, disait avant le scrutin de dimanche dernier, l'abstention profite aux électorats les plus mobilisés, c'est-à-dire habituellement aux extrêmes. Mais les électeurs du Rassemblement National se sont fait désirer dans les urnes, Bruno Cotres.
Et oui, parce que si l'électorat du Rassemblement National est un électorat sans aucun doute extrêmement motivé, est très loyal à sa formation politique. Lorsqu'on a voté Marine Le Pen, la probabilité de voter pour les candidats du Rassemblement National est très forte, et c'est le lien le plus important entre se sentir proche d'un mouvement politique et voter pour les candidats de ce mouvement. C'est aujourd'hui le lien le plus fort dans notre vie politique au Rassemblement National. Mais néanmoins, le Rassemblement National a une caractéristique dans la sociologie de son électorat. Il est profondément ancré non seulement dans les catégories populaires, mais dans la genèse de la précarité, la genèse de la galère. Et c'est cette partie, sans aucun doute, de l'électorat qui a cruellement fait défaut dimanche dernier au Rassemblement National, dans une élection à forte abstention, avec un enjeu très difficile à dire pour les milieux sociaux qui sont les plus distants de la politique. Et c'est sans aucun doute ça qui explique l'écart entre les intentions de vote qui étaient données aux candidats du Rassemblement National et les votes obtenus finalement dimanche.
C'est la raison pour laquelle un certain nombre de ténors du RN, à commencer par la présidente Marine Le Pen, ont exhorté les électeurs à voter après-demain. Et puis il y a la mobilisation à l'envers, Valérie Gass, des électeurs LR. Les Républicains.
Alors, les électeurs LR, oui, c'est ceux qui ont été le plus votés. D'ailleurs, on a vu le résultat. Hein. LR s'en sort bien dans les régions où il y avait des sortants. je sais pas s'ils ont été mobilisés, en tout cas ils ont été moins démobilisés que les autres. Les deux partis qui ont le plus fait les frais de l'abstention, c'est le Rassemblement National en tête, vraiment très fortement, et La République En Marche en deuxième. Les LR s'en sortent bien, et aussi les socialistes, on peut dire quand même, en fait tous les sortants, les gens ont été votés, comme si la question c'était est-ce que le bilan de votre président de région est bon. Est-ce que vous le connaissez? En fait, vous ne connaissez que lui, vous votez pour lui. Il y a eu une espèce de chose comme ça, et dans laquelle forcément les Républicains sont ceux qui s'en sont le mieux sortis.
Justement, le bilan politique de ce premier tour, c'est maintenant dans le débat du jour sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
La lecture des résultats avec tout d'abord la déroute de La République En Marche qui, 4 ans après son apparition, confirme ne pas être un parti implanté dans les territoires comme les formations politiques classiques, Bruno Cotterêts.
Oui, exactement. C'est une des caractéristiques majeures de La République En Marche. En l'automne 2018, nous avions conduit avec une équipe de chercheurs une grande étude sur les adhérents de La République En Marche, et nous avions interrogé un échantillon de 9000 marcheurs, et nous avions constaté que La République En Marche, c'était Emmanuel Macron, que l'opinion qu'avaient les marcheurs sur leur formation politique était totalement liée à la personnalité d'Emmanuel Macron, et on avait constaté très rapidement l'absence non seulement de structure locale de La République En Marche, qui est une organisation politique qui a toujours refusé au départ ce qui faisait la caractéristique des anciennes formations politiques, c'est-à-dire au contraire une très forte structuration locale, mais on avait constaté également l'absence d'activité au sens militant classique du terme et des activités qui étaient beaucoup plus des activités pratiquant d'une sorte d'ONG de la société civile plutôt que d'un mouvement politique, et élection après élection, on avait vu au municipal l'an dernier, on le revoit cette année au régional, on voit la grande difficulté de cette organisation politique nouvelle à s'ancrer territorialement, ce qui pour une organisation politique est un vrai point faible.
Et il y a une preuve de cela, Valérie Gasse, c'est le fait que 5 ministres qui y sont allés, comme on dit, on fait piètre figure.
Ça, c'est dans les Hauts-de-France. C'était censé être l'arme fatale d'Emmanuel Macron pour aller combattre le Rassemblement National dans les Hauts-de-France, région de Marine Le Pen, d'élection de Marine Le Pen, et puis surtout Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle et potentiel adversaire d'Emmanuel Macron. Il a envoyé Éric Dupond-Moretti à la tête d'une armada de 5 ministres, et La République En Marche a été éliminée au premier tour. C'est vraiment une claque, on peut le dire, pour Emmanuel Macron, et c'est une stratégie qui est parti de l'Élysée. Il a demandé au ministre de la Justice d'y aller un peu au dernier moment, et ça n'a absolument pas porté ses fruits. Et il y a une autre région, Auvergne-Rhône-Alpes, où le candidat de La République En Marche, le député Bruno Bonnel, qui pensait, quand on lui parlait, faire une bonne campagne et qui était plein d'espoir, ne passe pas non plus la barre du premier tour. C'est quand même assez significatif. Et comme vous le disiez, il y a Emmanuel Macron et puis rien derrière. Après, il faut relativiser, parce qu'en effet, ce score de La République En Marche, de la majorité présidentielle régionale, ne préfigure pas forcément de manière directe ce que fera Emmanuel Macron à la présidentielle. Il faut quand même en être conscient.
On parlera dans quelques instants. Autre déconvenue moins sévère, celle-là subie par le RN. Le RN que tous les sondages donnaient le vent en poupe. Cela dit, il est fort. Alors pourquoi est-ce que... Question classique. Pourquoi les sondeurs, l'IFOP s'est trompé sur le RN, Marie Garzio?
Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a cette abstention, on l'a déjà dit, mais qui en fait a complètement rebattu le rapport de force politique au niveau local. Il y a aussi, pour rebondir en fait sur la double défaite à la fois du RN et de La République En Marche, c'est qu'il y a aussi une séparation assez hermétique en fait entre la sphère politique locale et la sphère politique nationale, puisque même si ça peut apparaître comme un peu un test dans la perspective de 2022, la cote de popularité d'Emmanuel Macron n'est pas totalement catastrophique. Marine Le Pen au niveau national a plutôt consolidé certaines de ses avances. Donc il y a cette séparation très forte entre entre les deux. Et pour revenir sur les électorats RN, c'est aussi ce qu'a dit Bruno Cotrez tout à l'heure, c'est des électorats qui sont parmi les catégories populaires. Alors certains très engagés, mais aussi, on l'observe, ils sont également touchés par une assez forte volatilité du vote. On a aujourd'hui des logiques de vote qui sont quand même souvent contradictoires. Et puis, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, on a parlé d'Emmanuel Macron qui rêvait d'une recomposition politique. En fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est une décomposition totale, en fait, de la politique. Et on a des électeurs qui ne s'y retrouvent absolument plus, avec des étiquettes multiples et variées, des logiques d'alliance qui n'ont plus aucune logique telle qu'on pouvait l'espérer, enfin, les concevoir auparavant. Et donc, dans tout ce magma, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident.
Il avait promis une politique moins politicienne et c'est pas vraiment ce qu'on a vu dans la préparation de ces régionales. Alors, on parle toujours de ce qui s'est passé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette alliance de Renaud Muselier avec La République En Marche, qui est quand même exemplaire de, du contraire de ce qui avait été promis en 2017.
Oui, justement, en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, duel après-demain Muselier-Mariani, Muselier de droite, Mariani d'extrême droite, et au milieu de tout ça, des écolos qui se retirent, un front républicain qui se met en place sans dire son nom, c'est quand même très particulier.
Ça a été douloureux une nouvelle fois, comme en 2015, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on revient à la même situation, c'est pas les mêmes protagonistes, mais c'est la même chose. Là, le candidat écologiste qui aurait très bien pu se maintenir, qui avait fait largement plus de ce qu'il fallait, ne voulait pas se retirer et voulait faire exister la gauche au second tour. Il a été poussé par les états-majors à justement se retirer pour qu'il y ait un front républicain, pour que Muselier ait une chance de l'emporter contre Thierry Mariani. Mais c'est vrai que ça s'est fait dans la douleur et que c'était assez ubuesque comme situation.
Et puisqu'on parle des écologistes, est-ce qu'ils avaient cartonné il y a un an au municipal lors d'un scrutin local, donc là on a un scrutin local encore. Est-ce qu'ils ont confirmé leur ancrage local, Bruno Cotrez?
Ils ont confirmé qu'ils sont dans certaines régions, qu'ils sont clairement, en dynamique à l'intérieur de la gauche, ça c'est sûr. On l'a vu en Île-de-France et puis on l'a vu également en Auvergne-Rhône-Alpes où les écologistes sont arrivés devant les socialistes, mais pas non plus de manière spectaculaire. Et finalement, la percée qui avait été celle des élections municipales ne s'est pas confirmée dans ces élections régionales. Ces élections régionales, lorsqu'on regarde pour le premier tour les totalisations au plan national socialiste et écologiste, ce sont quand même les socialistes qui sont au plan national de ces élections régionales en tête devant les socialistes. Donc là, les élections régionales n'ont pour le moment pas tranché le débat interne à la gauche sur quel sera le meilleur porteur pour l'élection présidentielle, un candidat écologiste ou un candidat socialiste. Donc il reste encore pour les écologistes, sans aucun doute, beaucoup de marches à gravir pour s'installer très durablement et très fortement comme la principale force de la gauche. Ça n'est toujours pas fait aujourd'hui.
Les écologistes qui se sont effacés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui se maintiennent dans les Hauts-de-France, sachant que Xavier Bertrand, de toute façon, est...
La victoire de Xavier Bertrand paraît plus que probable. Il avait une très large avance au premier tour sur son adversaire Rassemblement National, Sébastien Chenu, qui vraiment était son principal adversaire. Dans les Hauts-de-France, on avait la seule liste d'union de gauche avant le premier tour, dirigée par une écologiste, Karima Deli. C'était un peu... c'est la seule région où ils avaient réussi à s'entendre dès avant le premier tour. Elle fait un score qui est honnête, mais bien sûr, elle a aucune chance de l'emporter. On est dans une triangulaire classique. Xavier Bertrand, pour lui, l'enjeu maintenant, c'est de faire le meilleur score possible au second tour pour se propulser vers ce qu'il veut vraiment, c'est-à-dire la campagne présidentielle, la candidature.
L'union de la gauche, il y en a une nouvelle union de la gauche après le premier tour, c'est à Paris. Ça peut rebattre les cartes, Marie Agariaso.
Alors, les dernières intentions de vote qu'on a sur l'Île-de-France sont plutôt favorables à Valérie Pécresse. Elle est quand même très largement en avance.
Combien ?
44% et contre 31% pour la liste d'Union de la gauche conduite par Julien Bayou. Et cette liste d'union de la gauche, elle est aussi traversée un peu par des divisions. Mais peut-être quand même pour rebondir sur les écologistes, ils ont certainement pâti aussi de la thématique sécuritaire qui a occupé énormément la campagne et qui du coup a relégué un peu par rapport aux municipales les thématiques environnementales au second voire au troisième plan. Mais on peut quand même repérer que là où il y a eu des unions, enfin des listes d'union, c'est quand même beaucoup plus souvent les candidats écologistes qui ont pris le devant. Et donc, il y a quand même une petite dynamique qui s'installe. Et quand on voit les scores d'intention de vote, notamment de Yannick Jadot et de Anne Hidalgo à la présidentielle, on voit que les jeux vont être serrés.
Les alliances, elles se sont généralement faites derrière le candidat écologiste qui avait obtenu le meilleur score au premier tour en Ile-de-France, notamment avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain qui se sont alliées. Mais cette alliance en Ile-de-France, elle a provoqué beaucoup de crispations au sein de la gauche, parce qu'il y a une alliance avec la France insoumise, parce que là on parle des écologistes, mais il y a aussi la France insoumise, et ça, à gauche, ça ne fait pas l'unanimité. Dans certaines régions, les candidats socialistes sortants, Carole Delga par exemple en Occitanie, refusent l'alliance avec la France insoumise. Donc il y a vraiment des problématiques, il y a des divisions très fortes et il y a des clivages qui restent. Et d'ailleurs, pour la présidentielle, on voit qu'on va s'orienter vers peut-être plutôt une multitude, enfin plusieurs candidats que des candidats d'union.
Alors, ce second tour, c'est dans 48 heures maintenant, même moins d'ailleurs. Un second tour pour la forme, avec une confirmation des tendances, ou est-ce qu'il y a des coups de théâtre, des surprises à attendre selon vous, Bruno Cotresse ?
C'est surtout dans la région PACA que la tension va se concentrer fortement dimanche et lundi. Les dernières estimations donnent jeu égal, au fond, entre les deux candidats, Renaud Muselier et Thierry Mariani. Mais incontestablement, si le Rassemblement national parvenait à gagner la région PACA dimanche soir, ça ne serait pas une surprise, mais en tout cas, ça serait une des grosses informations de cette séquence électorale, avec un enjeu extrêmement important qui est la présidentielle en toile de fond. Il peut y avoir d'autres surprises dans d'autres régions, mais je dirais que l'essentiel de l'attention va surtout se concentrer sur cette région PACA, parce qu'au plan de la présidentielle et au plan de l'interprétation politique, si Renaud Muselier est reconduit à la tête de la région, il l'aura fait sur le principe d'une liste peut-être pas d'union, je crois que le terme est peut-être fort parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'accord avec La République En Marche, mais en tout cas une liste qui a accueilli des membres de La République En Marche parmi les candidats. S'il est battu, ça sera quelque chose de très important au sein de la droite. Et donc, à défaut de très grosses surprises, on peut dire que ces élections régionales vont sans doute avoir de grosses conséquences sur la préparation de l'élection présidentielle.
Et oui, parce que même local, un scrutin a toujours une portée nationale. Ces élections ne dérogent pas à la règle, surtout à une dizaine de mois de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, l'élection présidentielle devrait avoir lieu en avril. Les dates ont été données, on va dire, cette semaine, les 10 et 24 avril. À partir de lundi, donc, on peut dire que la présidentielle va commencer. Certains présidents de région ont fait de leur réélection une condition pour la suite de leur carrière politique et, pour tout dire, un tremplin vers l'Élysée. Il y en a deux, notamment. C'est donc Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Valérie Ass.
Ah ben oui, il a déjà dit qu'il était candidat. Son enjeu, c'est d'essayer d'éliminer les autres candidatures potentielles à droite. Il y a deux gros potentiels candidats. C'est Laurent Wauquiez, dont on parle assez peu, mais qui fait un gros score en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le président sortant et qui est très haut, qui va être réélu sans problème et qui a toujours eu des ambitions nationales, on le sait. Et puis il y a Valérie Pécresse en Ile-de-France qui est à un score un petit peu plus bas, mais qui devrait pouvoir l'emporter et qui après, bien sûr, pourra peut-être laisser apparaître ses ambitions. Elle a été plus discrète que Xavier Bertrand jusqu'à présent.
En tout cas, vous venez nous parler de trois personnalités de droite ailleurs, à gauche, en République En Marche, Marie Garriazo, on ne sait pas.
Non, alors,
et ce scrutin ne permettra pas d'y voir un peu plus clair.
Non, alors par contre, c'est vrai que le LR sort quand même ragaillardi de ce scrutin, enfin sans présager des résultats finaux. Et c'est vrai que ça rebat quand même un petit peu les cartes pour Emmanuel Macron dans une logique de ralliement. Ça va être plus compliqué pour lui et on le voit, on peut interpréter par exemple la passe d'armes entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin comme, on ne sait pas très bien
où se positionne. Deux ministres du gouvernement empaillés avant le Conseil des ministres.
Tout à fait. Et donc c'est vrai que tout ce qui va se passer chez les Républicains à la sortie de ce scrutin va être vraiment important, avec aussi l'idée que s'il y a une trop grosse bataille entre ces trois candidats potentiels, ça risque par contre de nuire à leur image.
À plus court terme, le mot a commencé à circuler cette semaine. C'est l'idée d'un remaniement, justement, peut-être pour écarter ces cinq ministres dont vous me parliez tout à l'heure, Valérie Gasse, qui avait fait des contre-performances.
Non, là, l'idée, s'il y a un remaniement, ce ne sera pas de tirer les enseignements directement des échecs des ministres que Macron a envoyés au front électoral, avec pertes et fracas. Mais non, s'il y a un remaniement, ça pourrait être un remaniement technique. On en parle depuis longtemps parce qu'il y a des ministres qui n'impactent pas, tout simplement. Et ce serait peut-être l'occasion, la dernière occasion de resserrer l'équipe et de se mettre en ordre de bataille pour la présidentielle. Rien n'est sûr, rien n'est exclu. On verra avec Emmanuel Macron. Il faut toujours attendre un peu pour avoir les conclusions. Mais voilà, il va aussi peut-être y avoir des changements dans le parti La République En Marche, parce que Stanislas Guérini, qui est le patron actuellement, est un peu mis en cause.
On verra bien, comme on dit. La suite, ce sera donc dimanche. Et après-demain, à partir de 20h, RFI vous proposera une édition spéciale pour prendre connaissance des premiers résultats, première réaction dans plusieurs régions avec les envoyés spéciaux de la rédaction, premier commentaire également avec des hommes et des femmes de tous bords politiques. Un politologue sera avec moi ainsi que vous, Valérie Gasse, chef du service politique de RFI.
Avec plaisir.
À très vite. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'était le débat du jour. Il était réalisé par Jean-Philippe Thury.